22, tout le monde, antenne, corps étrangers.
Yeah, thanks everybody. After the, that part of the journey through the internet, we come back to the earth in a certain way. And so we are we're happy to welcome Christa Blumlinger. She will do the presentation about the question of visibility with Arun Farouki films and installations too. And she will be in dialogue with Philippa César after a presentation.
Yes, and I will talk in French, so there will be a translation from the French to the English, but the conversation with Philippa will take place in English. So after my talk, I will switch into English. And I already thank the translators for their tough job to do, because I have a written paper, and normally it's quite difficult, I know, to translate that such a thing. So thank you for the invitation. I will go immediately into the facts. Je passe donc alors en français. Je suis très heureuse donc d'engager un dialogue avec Philippa. Nous nous connaissons depuis un bon moment et entre autres aussi avec et à travers Arun Farouki. En évoquant quelques films et installations de Farouki, je voudrais esquisser l'hypothèse que l'art de Farouki se rapproche de la réflexion de Michel Foucault, non seulement à cause de son intérêt pour l'examen des mécanismes de contrôle ou par son approche archéologique des archives, mais aussi et surtout par l'attention qu'il prête au système de visibilité, à ce que Gilles Deleuze a appelé chez Foucault une passion de voir. Dans toute l'œuvre de Farouki, des films essais comme Tel qu'on le voit, Etwas wird sichtbar, aux films observateurs comme En comparaison, In comparison, jusqu'aux installations œil-machine, Eye-machine, contre-champ, Counter-chant. Ou encore « Jeux sérieux »,« Serious Games », s'élabore une critique de la relève du travail manuel par la machine, de la substitution de la machine à l'œil. La tendance actuelle à développer des usines sans ouvriers intéresse le cinéaste artiste autant que la guerre sans soldats. Même si elles opèrent aujourd'hui dans l'espace d'une réalité géographique intégralement virtualisée, les images numériques et les nouvelles machines de vision automatique, c'est une expression de Paul Virilio, se règlent bien souvent, comme le relèvent les analyses de Farouki, sur une forme de visibilité anthropomorphe, c'est-à-dire d'après les réalités ou des données de la vision humaine. Mais attention, il s'agit là d'un constat concernant l'historicité précise de ces images. Quand Farouki travaille sur ces questions, c'est les années 80 et puis les années 2000. Et l'artiste et géographe américain Trevor Paglen remarque très justement dans un texte consacré en 2013 aux images opératoires assemblées par Farouki dans ou pour iMachine, que d'un point de vue technologique, cette exploration dramatique du monde émergeant des images opératoires est ici maintenant anachronique, car il ne s'agit plus de rendre ces images lisibles pour l'œil humain. Donc il y a un vrai changement de paradigme dont on parlera peut-être tout à l'heure. L'histoire de cette visibilité qui se transforme n'est pas encore écrite. Selon Paglen, Farouki aurait dressé au début des années 2000 une sorte d'inventaire qui permet de comprendre que nous vivons aujourd'hui un moment où, je cite Paglen, la plupart des images dans le monde sont des descendants de ces images opératoires dans iMachine, c'est-à-dire des images faites par des machines pour d'autres machines. Qu'il, traitait d'organisation taylorienne du travail, de surveillance militaire ou civile, de simulation ou d'automatisation. Farocchi visait toujours à définir la situation du corps humain au sein des dispositifs commandés par des machines et des systèmes optiques. L'analyse déployée par Farocchi vise des dispositifs et réseaux économiques, politiques et sociaux, tout en essayant de toucher ce que Farocchi appelle d'une part le non-pensé, de ce que Foucault appelle le non-pensé, d'une part, et de l'autre, l'invisible. C'est-à-dire, c'est non pas ce qui est caché, mais ce qui n'est pas vu au sein même d'un système. Le titre d'un des films antérieurs de Farocchi, Quelque chose devient visible, Etwas wird sichtbar, évoque déjà la question des conditions de la circulation des images sur la guerre, en l'occurrence celle de Vietnam. Et à partir d'une analyse des raisons pour lesquelles les Alliés ne tirèrent pas les conséquences des informations qu'ils possédèrent déjà à cette époque sur la destruction massive des Juifs, donc en 1944, Farocchi conçut son film le plus décisif. Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, Images du monde et inscriptions de la guerre, qui date de 1984, déchiffre une constellation de vues militaires et examine deux dispositifs de vision. En 1944 et en 1977, les pilotes américains et les agents de la CIA livrent deux lectures différentes des photos aériennes d'Auschwitz. Farocchi déploie ici un champ épistémologique qui construit une histoire des techniques de mesure et de surveillance sur un fond d'automatisation accéléré. À la fin du film, on discerne un point aveugle de l'acte photographique dans la référence à la réalité du camp d'extermination. Les derniers plans du film font ressortir plus fortement les détails des vues aériennes qui ont déjà été montrées à plusieurs reprises dans le film et recadrées et réagencées au cours du film. Pour finir, les montages permutés jouant sur l'extrême agrandissement des documents en soulignent encore une fois la matérialité. Farocchi met en scène ces images précisément dans les lieux où s'exerce une pensée visuelle, c'est-à-dire dans les albums, vous voyez ici l'album d'Auschwitz, enfin reproduit, dans les archives des institutions, en les rattachant à leurs techniques spécifiques de reproduction et de diffusion. À chaque fois qu'il cherchait des images inhabituelles et difficilement accessibles dans les archives spécialisées, tant pour ses films que pour ses créations artistiques, il se donnait pour but d'analyser leurs conditions de visibilité. Au-delà de la dialectique de la raison dont il offre une démonstration, Farocchi dresse donc, proche en ceci des archéologies du regard qui, chez Foucault, sont inséparables de celles des machines de vision, une histoire, et je cite John Reichman, pas seulement de ce qui était vu, mais de ce qui pouvait être vu, de ce qui était visible, une sorte d'inconscient positif de la vision. Et les visibilités ne sont pas cachées, car elles ne sont pas, dit Gilles Deleuze, en commentant Foucault, immédiatement vues ni visibles. Elles sont même invisibles tant qu'on en reste aux objets, aux choses ou aux qualités sensibles, sans s'élever jusqu'à la condition qui les ouvre. Donc c'est toujours la condition qui importe. Et je continue à citer Deleuze sur Foucault, parce que si elles ne sont ni les actes d'un sujet voyant, ni les données d'un sens visuel, elles constituent des complexes d'actions et de passions, d'actions et de réactions, des complexes multisensoriels. Donc c'est la lecture de Foucault sur l'idée de visibilité donnée par Deleuze. L'art de l'image en mouvement et celui de Farocchi en est un des exemples les plus convaincants, peut-être le lieu privilégié pour montrer les conditions même de la vision. Et en ce sens, d'après Farocki, la reconnaissance des chambres à gaz sur les vues aériennes des Américains n'est pas devenue possible parce qu'on aurait observé celles-ci avec plus d'attention, mais à la suite d'une réorganisation du visible. Car la visibilité, selon Foucault, tient à un corps de pratique matériel anonyme et dispersé. Donc, c'est les conditions qui ont changé et qui ont permis cette visibilité. Dans un texte de 2004 intitulé « Le point de vue de la guerre », paru dans la revue Trafic numéro 50, ici en France, Haroun Farocki écrit, je cite Farocki, qui était aussi un grand écrivain critique, et un critique du cinéma, mais des images de la culture visuelle. Je cite donc Farocki. Aujourd'hui, les archives militaires ne fournissent plus d'images sur lesquelles figurent des véhicules, d'où l'on pourrait conclure à la présence d'êtres humains dans la zone de feu. Fin de citation. Par ce constat, Farocki indique une transformation de la politique des autorités militaires depuis la première guerre du Golfe, à laquelle il consacre ce cycle d'installation à Machine. Il pointe ainsi un critère décisif de l'imagerie des guerres d'aujourd'hui. L'accessibilité des archives sensibles reste une question de pouvoir. Et dans le contexte d'une surveillance dont la destination et la mémorisation sont incertaines, Farocki s'intéresse particulièrement aux dernières technologies au sein des outils numériques censés réduire ou transformer les informations analogiques. Je le cite encore, « Les films d'animation, écrit-il, qui soient produits sur la planche à dessin ou par ordinateur, utilisent volontiers un point de vue où il serait difficile, voire tout à fait impossible, de placer une caméra. » Et plus loin, « Les films d'animation sont un genre qui ne peut véritablement peindre la mort. Tout ici est réversible. » Fin de citation. Je pense que ce sera un point dont on pourra peut-être parler avec Philippa tout à l'heure. Par là, Farocki renvoie, tout comme Serge Danet, l'image numérique à la tendance dessin du cinéma, s'opposant depuis ses débuts à la tendance enregistrement. Comme Danet, Farocki dialectise cette opposition et la rend paradoxale. Il souligne qu'aujourd'hui, les animations numériques imposent une norme stylistique et, je le cite encore, se tiennent elles-mêmes pour des images exemplaires. Elles n'hésitent pas à représenter le sexe et la mort, ou encore, ou au contraire, ne prenant pas en compte l'homme, un désert de synthèse, par exemple, dit-il, est l'endroit idéal pour imaginer une guerre propre, où chaque arme suscite une anti-arme, puis une anti-anti-arme. Fin de citation. Une telle simulation ressemblerait en ceci aux images fonctionnelles de la première guerre du Golfe, dont vous voyez un exemple ici, et ces vues aériennes filmées du point de vue des bombes, présentées aux téléspectateurs comme une sorte d'utopie de guerre, dit Farocki. Et si Farocki dit dans les années 2000, face aux images numériques, qu'il n'y a pas d'image qui ne vise l'œil humain, c'est justement pour mesurer le rapport complexe entre les deux régimes d'images que Danet a attribué au dessin d'un côté et à l'enregistrement de l'autre. Dans Serious Games, Jeux sérieux, par exemple, il montre à quel point les animations numériques des écoles militaires deviennent le modèle même de la réalité d'après-guerre. Dans l'œil machine, on voit, à partir des logiciels de traitement analytique des images, à quel point la différence entre images enregistrées et images calculées peut être graduelle. En ce sens, le texte de Farocki, Le point de vue de la guerre, n'est certes pas un pamphlet contre le numérique, ce serait vraiment exagéré, mal comprendre son point, et ou contre la tendance dessin, mais Farocki marque, par son analyse sophistiquée de l'histoire des techniques de représentation, une autre ligne de démarcation, je pense. et celle-ci passe par la différence esthétique entre les images filmiques, cinéma, et les images fonctionnelles de surveillance, dont Farocki dit qu'elles ne sont ni montées ni cadrées. Car aujourd'hui, dit-il, rien de neuf ne peut s'annoncer dans les images. Moi, c'est une chose que je voudrais souligner, voire peut-être tout à l'heure avec Philippa, c'est que chez Farocki, il y a toujours une pensée cinéma à l'horizon de sa critique des images contemporaines. En réutilisant des images techniques ou opératoires, c'est un terme qu'il utilise, Farocki donne à comprendre le découplement historique de l'œil de la machine et l'écart ouvert entre l'ancrage corporel et l'autonomie de l'automate. La série des trois installations, iMachine, montre comment l'abstraction graphique des images de reconnaissance aérienne peut atteindre des niveaux qui conduisent à nier le réel, pour autant qu'elle participe simultanément à des dispositifs de pouvoir et à un processus d'archivation, soumis à une rationalité purement rationnelle ou instrumentale. Ces automates visuels intègrent des programmes de traitement des images qui travaillent, comme l'écrit Farocki, avec la même maladresse que les bras des robots auxquels on confie une tâche nouvelle. Fin de citation. Donc, le cinéma, comme j'ai dit, représente aujourd'hui un domaine de référence dans les installations vidéo de Farocki, même quand elles traitent principalement d'univers d'images fonctionnelles ou opératoires. Son œuvre montre comment, jusque dans les espaces géographiques intégralement virtualisés ou virtuels, les images numériques et les machines de vision automatique restent souvent fondées sur un schéma anthropomorphique et reproduisent les modalités de la vision humaine. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi une vision qu'il faut peut-être relativiser d'un point de vue historique. Donc, Serious Games met ainsi en lumière une facette essentielle de l'arsenal des multiples technologies militaires d'immersion. La conception interactive de certains jeux vidéo requiert du joueur des réactions toujours plus rapides, tout à l'opposé de la situation hypnotique qui est celle du spectateur du cinéma. On cherche ici à développer des réflexes de soldats. Un décor militaire dressé dans un terrain d'exercice près de 29 Palms, au milieu du désert de Californie, ne doit pas seulement reproduire le monde réel en territoire ennemi, il doit aussi imiter autant que possible les prothèses visuelles dont les soldats sont équipés. Farocki montre que ces techniques sont les héritières équivoques du cinéma. Certes, l'effet d'illusion des images numériques semble paradoxalement faire référence à l'image analogique et aux conventions de l'expérience filmique de l'espace, mais il se rencontre aussi parfois une certaine pauvreté figurative dans laquelle Serious Games reconnaît le symptôme d'une différence de réalisme entre les jeux militaires destinés à entraîner les soldats et ceux qui visent à consolider l'expérience acquise. Ainsi, dans les installations que Farocki a consacrées aux machines de vision, il ne s'agit pas seulement d'esquisser une histoire des techniques des armes dites intelligentes et de leur type de vision, mais de montrer l'agencement biopolitique que leur production implique. À travers leur reprise de films pédagogiques, Farocki historise la place du corps et la mesure du regard humain dans ce dispositif. Et si le cinéma reste une référence à l'horizon de ces compilations d'apparence austère, à partir des images fonctionnelles que Farocki appelle opératoires, c'est justement à cause d'une logique de pensée venant du montage comme acte de lecture et de réflexion. Je voudrais vraiment souligner cette idée du montage qui est centrale dans l'œuvre de Farocki. Haroun Farocki travaillait pendant des décennies à une archéologie de la culture contemporaine de l'image. Sa pensée était donc marquée par le cinéma, alors même qu'il abandonnait la salle obscure pour le musée et il s'étendait à devoir des dimensions à découvrir des dimensions culturelles, historiques et épistémologiques, jusque dans les images utilitaires les plus spécifiques. Et si les installations dont je vous ai parlé, I Machine et Jeux sérieux, accordaient une place centrale à la mise en œuvre des espaces virtuels, de machines de vision automatique et de prothèses numériques dans la vie quotidienne militaire et civile, l'installation vidéo parallèle, qui fut aussi la dernière création de l'artiste, quant à elle, vise à replacer les formes visuelles des jeux numériques dans une tradition de représentation qui remonte à l'Antiquité. C'est moins l'art de la narration que l'architecture qui semble présider à l'innovation formelle dans cet univers ludique. Et je pense que là aussi, on pourrait peut-être voir un point commun avec Sandstone et l'installation montrée actuellement dans l'espace à la Galerie Chiasma par Philippa César et Louis Henderson. Au terme d'un impressionnant travail d'archives, Farrokk et ses collaborateurs ont rassemblé des images retraçant 30 ans d'évolution des environnements de jeux informatiques, depuis les graphiques tramés et les diagrammes schématiques jusqu'aux mises en scène d'un réalisme photographique. On voit des figures simples composées d'objets géométriques élémentaires, comme là, à côté des modélisations vectorielles et d'animations générées par des algorithmes complexes, comme ceux qui sont utilisés aujourd'hui dans les prévisions météorologiques. Le cycle créé par Farrokk, comportant deux projections simples et deux projections doubles, montre à quel point les formes visuelles des technologies dites nouvelles viennent en fait du dessin et de la cartographie. Par le biais des analyses comparatives parallèles, examine notamment cette question fondamentale. Dans quelle mesure le jeu vidéo cherche-t-il aujourd'hui à poursuivre et en même temps à transcender l'expérience esthétique du cinéma? Les conditions de la visibilité et des systèmes de savoir, ce que Michel Foucault appelle les épistémés, se modifient au fil du temps, et avec elle, la forme dans laquelle les choses sont désignées, représentées ou rapprochées entre elles. Je cite Foucault encore une dernière fois, « Les codes fondamentaux d'une culture, lit-on dans les mots et les choses, ceux qui régissent son langage, ses schémas perceptifs, ses échanges, ses techniques, ses valeurs, la hiérarchie de ses pratiques, fixent d'entrée de jeu, pour chaque homme, les ordres empiriques auxquels il aura affaire et dans lesquels il se retrouvera. » Fin de citation. Ce sont donc les figures centrales de telle épistémée qui identifient la première partie de la série parallèle lorsqu'elle présente des dessins et des animations dont les motifs incarnent depuis l'invention du cinéma la puissance mimétique du nouvel art. Vous savez que les frères Lumière ont filmé les feuilles des arbres, l'herbe, tout ce qui tremblait, tout ce qui incarnait le mouvement. Donc, ces feuilles agitées par le vent, les mouvements des vagues, les formations nuageuses. Les formes symboliques et les schémas représentationnels du filmage réel servent de grandeur de référence aux spéculations de Farrokk sur le monde visuel des jeux vidéo. Elles ne lui permettent pas seulement de mesurer le degré d'abstraction graphique et son évolution au cours du temps, donc dans l'espace de 20 ans, de simples dessins aux traits mettent en évidence, non moins que de modèles parfaitement réalistes, combien la logique de l'animation de synthèse s'écarte des principes filmiques de l'image animée. Au lieu de l'articulation en scènes successives et des changements codés de plans, on offre ici au spectateur un guidage interactif le long de divers parcours. Le continuum spatial de l'animation numérique n'est cependant pas illimité. Le monde du jeu est sans profondeur et le commentaire de Farrokk décrit l'architecture de l'espace de jeu comme le décor d'un studio de cinéma ou la scène d'un théâtre. Et je voudrais vous montrer donc maintenant un extrait de Cycle parallèle. C'est le troisième volet où vous pouvez justement voir cette idée que dans le jeu vidéo, nous sommes plutôt du côté de l'architecture et d'une scène de théâtre dans les coulisses que dans une logique d'espace cinématographique.
Like the camera in a feature film that dollies through walls to establish the narrator's omnipotence. It is evident that the block is hollow. The walls are invisible from the inside. Here the camera tries to penetrate the ground. It glances off like a shovel striking hard earth. The surface of the earth is invisible from below. It lacks the characteristic of being visible from both sides. The camera can easily penetrate the rocky cliff. The rock is not massive. Under it is the sea. The surface of the water is nothing but surface. There is no water below it. It floats in emptiness. This world floats like an island in the primeval ocean.
Des formations nuageuses, il arrive à un moment dans Parallèle 1, on va revenir sur l'extrait qu'on a vu, il arrive à un moment dans Parallèle 1, le premier volet, que les animations numériques se trouvent directement comparées à une projection cinématographique que je ne vous montre pas là, mais c'est à droite où, de cette image fixe. Ce qui frappe le spectateur, c'est moins le degré de l'analogie atteint par l'image de synthèse à gauche, là, que l'impression esthétique suscitée par la légère pulsation lumineuse décelable sur l'écran de droite. Quiconque est jamais allé au cinéma sait immédiatement qu'il s'agit là d'une image projetée, produite par réflexion d'un monde réel et enregistrée. auparavant, dont le clignotement résulte d'un mode spécifique justement d'enregistrement et de projection. Et l'analyse comparative de Farocchi montre à cet endroit que le véritable problème posé par la représentation des nuages virtuels réside moins dans l'imitation du caractère analogique du cinéma que dans l'intégration de sa logique spatiale et visuelle au sein d'un système graphique. Donc la comparaison des images met en évidence combien la simulation informatique est à la fois indication et apparaître, ou, selon les termes de Foucault, rapport à un objet et manifestation de soi, c'est-à-dire simultanément carte et image. Et c'est justement cette logique cartographique, je pense, qui est aussi au sujet de Sandstone. Hein, le sujet. Et en recherchant, donc je vais terminer là, cette intervention sur Farocchi, en recherchant ces images éphémères dans les archives spécialisées et peu accessibles, Farocchi vise donc la déconstruction de leurs éléments. Et c'est possible d'un côté par l'opération du montage, qui est une opération purement cinématographique, en tant que système de répétition, de recomposition et de comparaison, et de l'autre, par l'exposition des dispositifs de vision. Et à travers la relecture des images fonctionnelles et par la pensée dialectique de l'archive dont elles sortent, surgit chez Farocchi la déliaison historique entre l'œil attaché au corps humain et machine devenue automate autonome, pour exposer une tendance que Trevor Paglen annonce comme un monde où ces images opératoires, je cite donc Paglen, sont non seulement étrangères aux hommes, mais devenues littéralement invisibles, parce que plus personne ne les voit. Le montage sert, dans ce type d'analyse comparative, à produire un éclat de pensée, ce que Farocchi appelle dans un de ses textes « Gedankenwitz ». Et le défi dans ces films et installations consisterait, selon Farocchi, à éviter, au cours d'une équation, la confusion ou l'amalgame des éléments mis en relation. Donc, il y a toujours un mode de comparaison qui est de l'ordre de l'homologie. Enfin, c'est jamais une équation simple. C'est justement sur le plan d'une différenciation structurelle progressive et fine que le montage farocchien parvient à produire une pensée de la visibilité et à suggérer ce qu'on peut appeler l'impensé de l'archive et son lien avec l'impensé filmique au moment même de l'enregistrement. Et now I will switch into English and ask a question immediately to Philippa and maybe to Louise as well. Just to ask you, I show some images from the show that opened yesterday for those who didn't have the time to go there. You see some optical devices linked to the figure of the lighthouse that are also part of the film Sandstone. And in the film, I see some strategies that maybe you share with Farocchi's work. For instance, you film workers, including those who produce lenses or vision machines. You have an interest for tools and the framework of image production. And you also question the place of the observer. So you really analyze the logics of production of a specific gaze, which Farocchi also does in Parallel, for instance. Would you agree with that?
Yeah, I mean, I wanted to respond actually more with a story, like, or with a narrating a little bit what happened in the early summer of 2014, in a conversation with Arun and also with my partner that is an actor, that was actually playing in a film that was that was very interesting because it was a film staging in the Second World War. And the subject of the film was actually the story during the Second World War, in the frame of the Stalin and Hitler Pact, there was a lot of factories joined to work together. And one of the subject of this film is actually a crisis that is happening in a lens factory that is a lens factory shared by, that is actually in Soviet Union, but is also like technicians of, German technicians are working in this factory, and they are working on glass, and they are producing lenses. And these lenses, so it's a factory, and there's a, they are producing lenses for weapons, for weapon device. So the you know the lenses to look through, and so it, suddenly we were having this discussion, and it was so interesting because you have this like this kind of lens corollary, you know, of the production of lenses and the relation between, you know, the factory, the lenses, and the relation of production and destruction at the same time. So this was all like we were having this conversation because this was also like the film was being shot also in Ukrainian during the conflict. So everything, we were in this kind of like dinner and having a conversation about all these relations between factory production and destruction and the lenses as this kind of object and material object that was contaminated with all these issues, and this is also a time where Arun is starting to talk about navigation as a new form of montage, or maybe, I mean, he's not substituting one for the other, but he's saying that navigation and this navigational possibilities of the CGI animation can bring other ways of like creating, you know, like going from one point to the other. You know, this way that what he talks a lot about, also Arun reflected a lot of montage, and navigation creates this kind of like way of moving from different places. And so I think this we were discussing, and it's actually in this context actually that the idea of, and also later with discussing with Louis, that the idea of like thinking about the glass and the lighthouse as this kind of violent or potential device of violence, and these links. I mean, I wanted to jump to something else that actually came to my mind when you were talking, and also the fact that Arun was when he showed the part of parallel with the wind, when Arun is talking about wind, I wanted to quote him because I think it's very interesting what he proposed here. He says that computer animations are currently becoming a general model, surpassing film. In films, there is wind that blows, and the wind that is provoked by the wind machine. So these two types of wind. But he says that in computer imageries don't have two kinds of wind. They only have one kind of wind. And it's not even a wind, it's a wind that is actually almost an animistic wind, because it's the object itself that has the capacity of becoming windy, you know, like of having the capacity of winding itself through the way it moves. So I think this idea of like, and Arun talks about this idea that is not the difference between cinema and computer animation is maybe this difference between a reproduced world from cinema to a produced world, and this is I think an issue that interests me a lot also in the continuation of our discussion. That's why I wanted to show you this 1 minute clip. That is actually, it's open, it's actually just, because this kind of, it's already open.
It's already open.
Yeah. It's just in the quick time. I just wanted to show this, it came to my mind now to bring it up, because this is for me what we could call liberal colonialism, or the new liberal colonialism. That is a small, there's a computer animation of an enterprise that is trying to make one of the islands in Guinea-Bissau into a free zone, and this is another way of rendering the same kind of
le golfe de Guinée, un des plus importants points de passage de Porte-Conteneur.
This is a way of rendering the same kind of process of calling an indigenous land a terra nullius. So it's a new way of, for example, this is actually an indigenous island, and it's an island in Guinea-Bissau that they want to occupy. They want to occupy, and it's a German enterprise. And they basically the animation, the imagery that is produced, and also this navigation through it, completely creates the erasion of what is actually there, what kind of life is actually there, and then there's so basically this is the new kind of study. This is happening in many places in the world, I think, where these images come first, and they actually, by being produced, by being disseminated, they erase something else. So, and for example, in this case, as I'm going to stop just in some seconds, where the area where people live, or the urban, or the residential area, is depict. Even if it's, you know, this is in the Bijagos archipelago, exactly here. So the residential area is already depicted with a mosque. So, and we are talking about here about indigenous people that have an animist culture. So also the religion is already rendered in this fictional projection. I mean, this is, for me, I think it's the point where we, you know, like, that I wanted to arrive, because I think it connects to what we were talking before, but also to,
to the idea in Serious Games. I have my mic. In Serious Games, that Farocchi develops that the animations, they prepare the situation after war, or the landscape, the territory that is to be occupied. So this is also, of course, a kind of occupation by economic means, but it's the same logics.
Exactly. I mean, how we can look at these images as military images and war images, as or producing of an occupation through the image. Absolutely. I know.
Yeah, I just wanted to respond specifically to the talk as well, really. And a couple of questions raised, and then to answer really to your question about the... I mean, it was interesting you show parallel, because this was a series of films that had greatly influenced the thinking before we were coming to making the work Sunstone. And in fact, when we showed the Sunstone in London, we showed Parallel 1, 3, and 4, I think, along with War at a Distance at Birkbeck Cinema. We had this packed-out screening. It was very nice. Lots of people came, even though Farocchi was obviously shown in London a long time ago, thanks to these two as well, because there was a great Farocchi retrospective that Kojo and Anjali curated a while ago. But anyways, so, yeah, just this idea of the sort of difference between the cinematographic image and, like, the image numérique, and this kind of gets back to a question that Olivier, I think you just missed it, but it's funny, because Olivier asked this question to us at the talk we gave at the Kubelkin, just after you had to go. And Olivier spoke about this idea precisely of the difference between the recorded 16mm image as a cinematographic record, and then the CGI image as a form of sort of architectural design, the sort of modeling of a space as such. And so this makes me start thinking about surfaces, and the idea of the way in which cinema had, or through the lenses of photography, we had started to attempt, even before from the Renaissance period, of trying to understand how to create the sort of modelization of a three-dimensionality on a flat plane. And then so thinking of those surfaces and the idea of lenses looking at flat surfaces, and then we see in the parallel example that you showed, the moment when the camera in the 3D architectural design space actually penetrates that surface and kind of goes beyond it. And I think Farocchi mentions later in one of the pieces, he talks about this almost childish sort of inquisitiveness of wanting to slice open a doll and look what's inside. So to kind of penetrate the illusion of surface in the desire to render space three-dimensional. So that's just some thoughts, really. But then one thing I would like to say, which is where I think Sunstone is quite different from Farocchi's inquiries into this three-dimensional rendering of space in a kind of opposition to the cinematographic image, is a lot of the images we see in Sunstone are actually very similar to photographic, to that flatness of the photographic image, because we used images that are screen recordings of a camera navigating Google Earth. And Google Earth are satellite images. And satellite images work by shooting out, you know, light beams that have to bounce off hard surfaces to be read. So it's not actually a space of an architectural design. It's still a scan that's very similar to a photograph. The way that a photograph scans three-dimensional space through light beams that reflect back into the sensor that get read into celluloid. So this is a thing I've worked with previously in old films as well. 2013, I made a film that works with a laser scan. And the laser scan, for me too, is not exactly an architectural modeling from scratch. It has a weird, similar relationship in terms of a kind of indexing of those surfaces, which that nonetheless can be, transpersed, yeah. So anyway, I was just wondering, maybe if you could, well, it's not even a question, it was just a lot of rambling, but if there is even a response in there, yeah, just that Sunstone perhaps is not architectural modeling.
Yeah, I think this is a very important point, and Philippa just underlined it as well, that there is one question that is about animation, and of course, what you are talking about, the Google animations out of photographic images, is to bring movement into still images or to, and it's not the same logics than create a 3D animation. But there is, in Sunstone, like in your former work, in Cacheo, for instance, there are also references to cinema. There's a quote of Sans Soleil, which has maybe to do with the whole, I would say, with the political story of the lighthouse that you give, that you trace somehow, the economical dimension. But there's also, I would say, a metaphorical dimension. I read it like this, of the lighthouse. That I would suggest, we were just discussing yesterday, has also something to do with cinema. The technique of this, of the lens, and the way that the light beam is produced by the light tower. And Jean Epstein in the early 40s made a trilogy about the Finistère, and there's a wonderful scene in this film, Le Tempestaire. Maybe we could just see the clip and then come back to your Sunstone, because the question would then be, what is your position, or what kind of archaeological work do you do, digging out this history of the lighthouse, which is also a history of optics, but it's an archaeological approach. It's not a nostalgic idea about the end of the lighthouse, nor it is. But the thing, what I would just underline, showing this film by Epstein, who was not only a filmmaker but also a critic, a theorist of cinema, and who had the knowledge in sciences, there is a moment where you see the machine of the lighthouse, and there is something about a metaphorical element about cinema. What is cinema? So maybe we could just see it and maybe make a link. So this is one of the part of your installation at the Gallery Chiasma, which immediately made me think of Le Tempestaire.
So, Le Tempestaire is a bird that doesn't exist in French. It's a mythic figure of a man, the lighthouse man, who can manipulate le temps, which in French means time, but weather at the time, at the same time. A young lady comes to see the Tempestaire because there is a tempest, and she is frightened because her love is out in the sea, and she wants him to stop the storm. As you see, the images of the waves are manipulated, they are slowed down, they are reversed. So the figure of the Tempestaire is also a metaphor of the cinema's aesthetic power to reverse time, to slow down. So I would say your work is maybe about this tension between time manipulation and space manipulation.
I will just close, wrap up with this. I mean, I think it is not, of course, it's not nothing about nostalgia. It's the opposite. It's actually about how can we understand the lighthouse as this kind of machinery of a certain kind of mode of thinking and of thinking the world. So I think this. This is exactly, you know, I think that is this relation, you know, like a certain epistemology that is like in this system of this machinery. And I think this maybe, yeah, it's a little bit what was in our interest of connecting, you know, the lighthouse and the other ways of the new ways of navigation. So thank you so much, Krista. Thank you all.